Les échos de vacarme.
Les échos de vacarme.
Les échos de vacarme.
Profession politique.
Raphaël Bouchet et Laurence Di Félix.
Oui, bonjour. J'ai adoré ces deux émissions de hier et d'aujourd'hui concernant le coaching et l'apprentissage afin de pouvoir s'exprimer lors de débats.
Je suis employé à l'administration fédérale, puis je réagis sur l'émission de ce jour sur les langues au Parlement. À l'administration fédérale, en fait, c'est pareil. Je suis à l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication à Berne. Il y a une langue, c'est l'allemand.
Je trouve que c'est pas normal que les parlementaires n'écoutent pas. Je pense qu'avec les moyens que nous avons dans ce pays, il devrait y avoir des traductions.
Je voulais dire, c'est pas seulement les parlementaires qui ont des problèmes par rapport à l'aspect linguistique. En fait, c'est toute l'administration fédérale. Dès que vous ne parlez pas l'allemand, vous ne faites pas écouter, respectivement, vos idées ne sont pas entendues. Même les excellentes idées ne sont pas entendues. Et le pire, c'est ceux qui comprennent le français, ils récupèrent votre idée, puis dans leur langue maternelle, c'est eux qui la passent en allemand. C'est malheureux, mais c'est comme ça.
Je trouve que la Suisse donne pas du tout assez de moyens dans l'école pour apprendre comment ça fonctionne les systèmes politiques suisses. Ma fille, elle a quasiment pas eu d'éducation civique à l'école obligatoire non plus, à basse-cour, donc je suis très critique avec ça. Parce que je pense que pour qu'une démocratie fonctionne bien, ben, il faut que le maximum de gens participent et le maximum de gens soient sensibilisés aux sujets politiques.
J'ai écouté votre émission sur l'argumentation. Alors il me semblerait qu'à l'école, bon, c'est mon avis, hein, plutôt qu'enseigner ce genre de choses aux enfants, ils apprendront bien plus tard. S'ils pouvaient apprendre à compter correctement et à écrire sans faute, ce serait un très grand pas pour eux déjà. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir. Merci.
Les échos de vacarme.
Bonjour à vous, merci pour tous ces mots laissés sur notre boîte vocale. En cette semaine d'élection vaudoise, qui se trouve aussi être celle du premier tour de l'élection présidentielle française, nous avons parlé de politique dans les reportages de Vacarme, non pas la politique, mais les politiques, celles et ceux qui travaillent dans les exécutifs, dans les législatives, dans les partis, pour voir d'où vient leur vocation, à quoi ressemble leur quotidien et quelles sont les compétences nécessaires à cette activité. Pour poursuivre la réflexion, j'ai le plaisir de recevoir ce matin un politologue et une enseignante. On commence par vous, Yad Janzi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prof de géographie et d'histoire au collège Sismondi à Genève. Vous collaborez avec l'université dans le cadre du projet Polyscope que vous nous expliquerez tout à l'heure. On l'entendait dans les quelques messages qu'on vient de diffuser. L'école est souvent pointée du doigt quand on parle du manque d'investissement des jeunes. Ça vous surprend ?
Le manque d'investissement des jeunes, non, les jeunes, ils sont souvent très investis. Ce que j'ai pu aussi entendre, ce sont des élèves, et notamment des élèves de l'école de culture générale, qui, eux, souhaiteraient pouvoir avoir davantage d'heures d'éducation à la citoyenneté ou en lien avec des problématiques liées aux politiques. Et ils nous ont dit qu'ils avaient une heure d'éducation à la citoyenneté très jeune, donc entre 12 et 13 ans, et qu'à leurs yeux, c'était insuffisant.
Un peu peu. Bon, bah voilà, ça fait écho à ce qu'on vient d'entendre de la part de nos auditrices et auditeurs. Roberto Di Capua, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes politologue à l'Institut d'études politiques de l'Université de Lausanne. Vous avez des réactions sur ces messages ?
Oui, alors je pense que c'est vrai que de manière générale dans la société, on peut se rendre compte qu'il y a une répartition inégale de la capacité à participer politiquement. Et l'école, je pense, joue un grand rôle là-dedans. Le fait de pouvoir avoir des cours de citoyenneté à tous les niveaux et les échelons scolaires, ça serait quelque chose d'important pour pouvoir politiser dès le plus jeune âge la population suisse et pour inciter les gens à participer politiquement.
On a intitulé cette série de reportages « Profession politique ». C'est le bon mot, profession, quand on parle de l'activité des politiciennes et politiciens en Suisse.
Alors c'est assez dur, je dirais. Plutôt que pour le cas suisse, c'est plutôt difficile de qualifier ça d'une profession parce que c'est plutôt une activité qui en Suisse est réalisée de manière extra-professionnelle, accessoire, voire parfois même bénévole. Donc, c'est pas le bon terme. Mais par contre, le terme profession convient si on s'attarde peut-être sur des critères et des compétences qui sont nécessaires pour pouvoir s'imposer dans l'arène politique.
Avant d'écouter ensemble des moments de reportage extraits de la série que nous avons diffusée tous les jours à 13h sur la première, une question à tous les deux, juste pour savoir d'où on parle. Quel est votre lien personnel au monde politique. Yadjanzi, est-ce que vous êtes élu quelque part, par exemple ?
Non, je ne fais pas de politique. Par contre, j'insère très souvent des problématiques politiques dans le cadre de mes enseignements.
Roberto Di Capua, même question.
Alors, outre mon activité professionnelle qui concerne quotidiennement des faits politiques, j'exerce la fonction de conseiller communal dans l'Ouest lausannois.
Depuis longtemps ?
Depuis une année.
Bon, vous faites donc partie de celles et ceux que notre reporter Mathieu Truffert aurait pu rencontrer au fil de ses 5 reportages de vacarme. Des hommes, des femmes qui ont un jour décidé de se lancer, d'affronter le jugement de leurs concitoyennes et de leurs concitoyens. Racontez-nous juste en 2 mots, c'est comment d'être élu ? Vous avez eu peur avant l'élection ?
Non, on va dire que c'est une commune d'une taille relativement moyenne, donc l'enjeu n'était pas très grand et je me présentais un petit peu comme ça, donc je n'avais pas vraiment de garantie d'être élu, mais c'est sûr qu'une fois qu'on est élu, on est plutôt content de pouvoir commencer cette nouvelle activité.
On va écouter 2 jeunes élus tout de suite. Tatiana Rezzo, elle a 25 ans, et Oleg Gaffner, il a 20 ans.
Merci. On se retrouve dans votre petit bureau dans lequel il y a des classeurs fédéraux jusqu'au plafond quasiment. Et puis 2 écrans. Qu'est-ce que vous faites ici ?
Alors là, je suis sur mon ordinateur. J'ai 2 postes de travail parce que c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur mes ordinateurs. J'étudie en droit à l'Université de Lausanne. Donc mes classeurs fédéraux, effectivement, c'est tout le droit qui a dû rentrer dans ma tête. Alors c'est pas plus ou moins bien rangé. C'est plus ou moins bien rangé dans ma tête aussi. J'arrive au bout de mes études. Je me réjouis de finir et puis d'entrer dans la vie active.
Tatiana Rezzo, vous avez 25 ans aujourd'hui, vous êtes assistante parlementaire. C'est quoi le boulot d'être assistante parlementaire d'Isabelle Moret ?
Ouais, il faut être un couteau suisse de la politique. Il faut savoir faire un petit peu de tout. Je m'occupe principalement d'une partie de la communication. Je fais aussi le lien avec le parti. Je suis quand même dans certains organes du parti PLR, donc ça me permet aussi de savoir ce qui se fait, ce qui va se dire. Et puis au niveau du Parlement fédéral, j'établis des contacts avec plusieurs conseillers nationaux. C'est très sympa comme travail, c'est vraiment cool.
Dans votre vie, avant la politique, il y avait beaucoup de musique, Oleg Gaffner.
Beaucoup de musique, oui. Je suis né dans une famille de musiciens, musiciennes plutôt. Ma mère est pianiste, ma sœur est harpiste, mon autre sœur est altiste. Et puis j'ai fait du violoncelle à partir de l'âge de 3 ans. Et ça, durant 14 ans. Donc beaucoup de musique. Et puis voilà, il y a d'autres activités qui se sont branchées, qui m'ont demandé de libérer du temps. Et donc j'ai arrêté le violoncelle au niveau auquel je pratiquais.
Vous avez parlé de votre famille. Est-ce qu'il y a une tradition politique dans la famille Gaffner ?
Non, pas de tradition politique, en tout cas pas dans la famille directe. C'était pas une discussion usuelle que de parler de politique. On parlait beaucoup de musique, on parlait peut-être alors plutôt de la politique au sens premier du terme. Qu'est-ce qui se passe dans la cité ? Qu'est-ce qui est scandaleux ? Qu'est-ce qui manque d'un point de vue culturel ? Qu'est-ce qui est mal géré ?
Comment est-ce que la politique surgit dans votre vie ?
Alors, il surgit, alors très c'est très spécifique, mais il surgit notamment dans l'APEMS, donc l'accueil de jour de l'école, où on reçoit des photos, des visuels en lien avec des crises environnementales.
C'était quoi les images ?
C'était une jeune fille dans une rivière avec plein de plastique, un autre polaire sur un iceberg qui fond, enfin sur une banquise, sur de la banquise détachée. Et voilà, ça m'a vachement touché. Puis avec 2 amis, dont une avec laquelle je suis actuellement conseiller communal de Lausanne d'ailleurs, on a créé un groupe qui s'appelait Sauve Planète. Et le but c'était de sensibiliser nos collègues à la PEMS. Et voilà, j'étais écolo, j'étais jeune, du coup je suis allé sonner à la porte des jeunes verts et jeunes vertes. Et voilà, maintenant je suis là où je suis et engagé depuis plus de 7 ans dans ce parti.
Et aujourd'hui, donc vous avez plusieurs postes officiels.
Exactement, alors. Vice-président des Verts et Vertes Suisses, co-président des Jeunes Verts et Jeunes Vertes Suisses, et je suis conseiller communal Jeunes Verts dans la commune de Lausanne.
Et candidat au Grand Conseil. Donc la tradition PLR, c'est vraiment une tradition de famille.
Exactement. Mon papa a toujours été conseiller communal, je pense, depuis ses 20 ans aussi, quelque chose comme ça. Donc j'ai toujours eu les discussions à la maison. La politique communale, comment ça se passait, comment ça se déroulait. Je l'ai toujours accompagnée partout aussi, dans tous les événements Crissy-Rois et puis d'un peu plus loin. Donc ouais, c'est une affaire de famille.
Il n'y a pas de vilain canard idéologique.
Alors je sais pas, ma sœur des fois on on se demandait. Après, mon père a toujours dit qu'on était libre de choisir ce qu'on voulait. J'ai pas été obligée tout de suite de prendre le PLR. Ça a été un choix de ma part, en fait. Des fois, ma sœur, on s'est dit, tiens, elle a peut-être quand même une fibre très écologique et comme ça. Puis en fait, je crois que là, dernièrement, elle a plutôt envie de venir au PLR aussi. Donc on verra.
C'était Tatiana Rezzo, PLR, Oleg Gafner du Parti des Verts. Tous les deux conseillers communaux, tous les deux assistants parlementaires à Berne, de manière bien différente en revanche d'entrer dans le monde politique. Roberto Di Capua, le profil du personnel politique, c'est votre sujet. Déjà, est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on sait combien il y a de personnes qui aujourd'hui siègent après avoir été élues, si on cumule les législatifs, les exécutifs communaux, cantonaux, fédéraux?
Bon, c'est assez dur à déterminer, mais je pense que ça se chiffre en plusieurs dizaines de milliers d'individus en Suisse. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une différence romande et alémanique. Dans les cantons alémaniques, on a plutôt tendance à avoir des législatives communaux. Dans des communes qui ont une certaine taille, des fois jusqu'à 10 000 habitants, on n'a pas de législatif élu au sein de la commune. Alors que dans le canton de Vaud, par exemple, dès 1000 habitants, on se retrouve avec un législatif communal élu.
C'est fixé dans la loi?
C'est fixé dans la loi vaudoise, bien sûr.
Et alors, comment ils font, les Suisses allemands, si avec des communes aussi grosses que 10 000 habitants, ils n'ont pas de législatif?
Ils ont des législatifs, mais c'est des assemblées populaires, c'est-à-dire que tout habitant, tout citoyen de la commune peut y participer sans nécessairement avoir passé par une épreuve électorale.
D'où ce chiffre, Suisse, pays aux 150 000 élus, mais en réalité, ce n'est pas forcément des élus, ça peut être simplement des gens qui participent à des conseils généraux.
Voilà, exactement. C'est des gens qui ont une activité politique, mais qui n'ont pas nécessairement été élu par la population.
Et c'est pour ça que ce chiffre n'existe pas, parce qu'on l'a cherché dans Vacarme en se disant on veut vraiment renseigner nos auditrices, nos auditeurs sur le nombre d'élus, de gens qui sortent des urnes, et on n'a pas réussi à le trouver.
Bon, je pense que c'est un chiffre qui pourrait être calculé, mais ça demande d'être... c'est un travail un petit peu chronophage, mais je pense qu'on pourrait obtenir ce chiffre.
On a réussi à trouver le chiffre juste pour le canton de Vaud, près de 9500, je crois, élus dans les législatifs et les exécutifs au niveau des communes et au niveau du canton. Si on essaie de faire le profil, le portrait robot, ça existe. On arrive à savoir qui sont les gens qui sont élus.
Oui, bien sûr, ça existe. Après, ça dépend aux différents échelons. Mais ce qu'a montré la sociologie des élites politiques, c'est qu'il y a quand même une forme de sélectivité sociale. On va dire que la capacité à s'imposer dans l'univers politique, elle est fortement inégalement distribuée au sein de la population. Et aujourd'hui, ceux qui participent à la politique, ils sont quelque part une sorte de miroir renversé de la population. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'employés subalternes, que ce soit du privé ou du public, mais que c'est davantage des personnes qui occupent une fonction indépendante ou une profession libérale, toutes des situations économiques qui laissent la possibilité de avoir un agenda flexible, de pouvoir ne pas être trop fatigué à la fin d'une journée pour pouvoir quand même assister à une séance de conseil communal ou à une séance de préparation de groupe. Donc on va dire que cette capacité à pouvoir participer politiquement, elle est quand même très liée aux conditions de vie des différentes classes qu'on peut retrouver au sein de la population.
Yed Jeunzi, en préparant cette émission, vous me disiez que vous aviez vu une étude sur les finances des élus et que effectivement, ça nécessite aussi d'avoir un petit peu d'argent pour pouvoir être élu.
Oui, alors selon à quelle échelle on va être élu en Suisse, ça demande une culture familiale, un réseau, mais aussi un financement. Par contre, je n'ai pas l'exact, les chiffres, mais c'est quelque chose que je sais, que j'ai entendu à plusieurs reprises. Il y a vraiment l'aspect social, culturel, mais aussi financier en Suisse.
Ce que vous dites donc de ces élites qui portent bien leur nom pour le coup, puisque d'après ce que je comprends de ce que vous dites, elles appartiennent effectivement à une classe plutôt favorisée. Est-ce qu'on le retrouve aussi, par exemple, dans la politique communale? Est-ce qu'on assiste aussi à cette inégalité?
On va dire que peut-être qu'au niveau communal et dans des communes de plus petite taille, cette sélectivité sociale est un petit peu plus faible parce qu'il y a d'autres formes de sélection qui rentrent en jeu, par exemple de la notoriété sociale. Pour donner un exemple, un président de club de foot dans une petite commune rurale, peut-être qu'il est sorti il exerce un métier manuel, mais pourtant sa notoriété, les interrelations sociales qu'il peut y avoir dans des petites communautés peuvent être suffisantes pour passer l'épreuve électorale. Mais plus la compétition électorale augmente, comme par exemple dans des régions plus urbaines ou dans des grandes villes, et plus la sélectivité sociale va s'intensifier parce qu'il faudra pouvoir mobiliser un réseau, des capitaux sociaux, de l'argent, du temps... pour pouvoir réussir à se faire élire. Et ça, c'est pas donné à tout le monde.
La question homme-femme, on n'en a pas parlé. La représentativité des hommes, des femmes, elle n'est pas égale?
Alors non, elle n'est pas égale. Bien sûr, ces dernières années, on assiste quand même à des progrès, c'est-à-dire qu'il y a quand même une féminisation, que ce soit au niveau du Parlement fédéral que dans les législatives cantonaux ou communaux. Après, bien sûr, ce qu'il faut voir, c'est que du moment qu'on voit que cette sélectivité, elle est liée quand même à des milieux professionnels, si ces milieux professionnels se féminisent, indirectement, ça va conduire à une féminisation de la classe politique. Du moment que ces milieux professionnels restent des milieux qui restent masculins, bah, on va se retrouver quand même avec moins de femmes au sein des législatives. Donc il y a quand même une relation entre, on va dire, la distribution sexuée des activités au sein de la société et un peu le miroir que ça va reproduire au sein des représentations politiques.
Est-ce qu'il y a des zones géographiques en Suisse romande où les femmes sont moins représentées que d'autres?
Dans les communes les plus rurales, je pense qu'il y a quand même un taux de féminisation des organes politiques qui est moindre par rapport aux régions les plus urbaines. Ça, c'est une évidence.
Et pour finir, ce portrait robot des élus dans les échelons communaux cantonaux, Roberto Di Capua, qu'est-ce qu'on peut dire de l'âge? Est-ce que les jeunes, dans les communes, par exemple, s'investissent?
Non, alors je pense que oui, il y a il y a, même au niveau du Parlement fédéral ou bien au niveau des communes, il y a cette tendance un peu au rajeunissement des élus. Mais après, bah, bien sûr, quand on va creuser, c'est pas n'importe quel jeune. Il y a beaucoup de jeunes qui utilisent un peu leur période d'étudiant universitaire pour pouvoir militer dans des partis, pour pouvoir s'y imposer et ensuite connaître une élection. Mais on retrouve très peu de jeunes qui sont, par exemple, en train de réaliser un CFC. Donc, il y a quand même, bien sûr, il y a un rajeunissement, mais de nouveau, il y a une sélectivité sociale à l'intérieur même du groupe des jeunes.
Cette question de la formation, si on monte dans les échelons nationaux, on sait les pourcentages de gens qui ont des maths ou des formations universitaires au Parlement?
Alors aujourd'hui, on a un Parlement qui est à majorité universitaire, même si il y a quelques évolutions depuis que l'UDC a connu un plus grand succès au niveau du Parlement fédéral. Le taux d'universitaires a quand même baissé au niveau du Parlement fédéral, mais on se retrouve quand même avec un Parlement qui est en grande partie, qui possède un titre universitaire.
Mais ça veut dire qu'on vit dans une forme de fiction quand on dit on est dans une politique de milice, on a des autorités politiques qui sont issues de la base du peuple, c'est pas tout à fait vrai?
Bah, c'est vrai qu'on va dire qu'il y a une sorte d'abus de langage en Suisse dès qu'on parle de système de milice, parce qu'on a fait un petit peu ce glissement un peu linguistique entre l'armée de milice et la politique de milice. Ce glissement, finalement, il est même plutôt récent. C'est quelque chose qui a eu lieu dans les années 60 à la suite de l'affaire Mirage. Donc c'était une situation où on s'est rendu compte que le Parlement suisse avait peu de ressources et il y a eu toute une série de demandes pour pouvoir professionnaliser ce Parlement. Et à ce moment-là, le terme, un petit peu, dans on va dire un peu un élan conservateur de système de milice, et s'est imposé un petit peu dans le discours public et sur la scène politique pour essayer au maximum de maintenir un Parlement qui est, on va dire, peu doté en ressources pour faire face à d'autres lobbies qui influent sur la politique suisse.
On en parlera. On en parlera de cette professionnalisation ou non de nos chambres fédérales. Yad Janzi, je le disais, vous enseignez au collège à Genève, équivalent du gymnase ou du lycée hein, dans les autres cantons. Et puis vous participez à ce projet Poliscope. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Oui, volontiers. Donc le Poliscope, c'est un projet qui émane de la faculté des sciences de la société de l'Université de Genève. Il a été mis sur pied à partir de 2016 et il s'agit d'un projet innovant qui relie l'aspect académique, technologique et didactique. Donc le premier volet de ce projet, on a eu l'idée de mettre en place des débats sous forme de jeux de rôle dans les classes du secondaire 2, donc collège, ECG, école de commerce, mais aussi pour des apprentis et le cycle d'orientation. Donc il y a le volet débat avec différentes thématiques sur des questions de société, mais on a aussi des machines du Poliscope sur lesquels il y a des jeux interactifs avec lesquels on peut interagir et on peut découvrir différentes thématiques, que ça soit la question du genre, des inégalités de genre à l'école, sur le thème de la migration, sur le thème des mouvements sociaux. Donc là, ça rejoint aussi le politique. Et ces machines donc sont à l'université à Genève en accès libre. Donc les classes viennent, s'inscrivent, sont accueillies par des experts et des expertes. mais ces machines tournent aussi dans les écoles ou dans les musées lors d'événements dans le cadre d'un projet.
Roberto Di Capua évoquait à l'instant le parcours scolaire des politiques en disant qu'ils étaient largement issus des élites. Ils ont des matus, ils ont des diplômes universitaires. Comment est-ce que vous, qui vous occupez justement de l'accueil des classes, de l'organisation de ces visites du Polyscope, vous percevez ces différences? Est-ce que les visiteurs ont les mêmes réactions, ont le même accès à ces machines s'ils sont au collège ou s'ils sont dans une école de culture générale ou apprentis?
Non, pas forcément. Et il y a certains jeux qui ont été conçus vraiment pour des élèves plutôt troisième, quatrième année de collège. Il y a des degrés de complexité qui sont très différents. Et on voit aussi une grande différence au niveau de l'interaction, des questions qui sont posées des élèves qui sont au collège. C'est plus facile pour eux de prendre la parole, de questionner, d'interagir avec les experts, les expertes. Et parfois, on a des élèves qui sont plus timorés, mais ça ne veut pas dire, par exemple, avec des élèves du cycle d'orientation, on a pu mettre en place des débats, des échanges extrêmement riches. Donc ça dépend beaucoup de la préparation, je dirais aussi. Pas seulement de la complexité du sujet, mais comment est-ce qu'on l'aborde et comment on prépare nos élèves à pouvoir interagir sur une question donnée.
Mais vous percevez une sorte de complexe, peut-être que c'est pas le bon mot, peut-être qu'il est trop dur, mais est-ce que on perçoit chez les jeunes qui sont pas dans les filières gymnasiales une espèce de sentiment d'illégitimité à se positionner sur un enjeu d'ordre politique? Vous parliez genre, migration.
Alors moi, j'ai presque envie de retourner la question en se demandant comment ça se fait que certains jeunes ont de la difficulté à se positionner politiquement. Il y a la question déjà à l'école, puisqu'on parle du rôle de l'école, de la soi-disant neutralité de l'école. Parce qu'il y a des enseignants, il y a des élèves qui me disent, mais il y a certains sujets, c'est peut-être mieux de pas en parler, c'est des questions sensibles, ça pourrait heurter certaines sensibilités. Le type d'argument qu'on peut entendre est... À mon sens, il faut vraiment distinguer la neutralité de l'impartialité.
Mais ça veut dire que comme on n'aborde pas ces questions-là en classe, parce que trop sensibles, parce que délicates, parce que potentiellement gênantes, les élèves n'ont pas, dans leur petite classe, en primaire, au cycle, l'opportunité de se positionner, d'assumer un point de vue?
Si, de plus en plus. Mais je dirais que c'est un discours qu'on entend encore, mais de plus en plus, et il y a beaucoup d'activités, de modules proposés au sein des classes pour pouvoir justement intégrer au sein des classes ce type de problématiques et de thématiques. Mais on a parlé de la soi-disant neutralité, mais il y a d'autres aspects. Il y a aussi comment est-ce que les jeunes s'informent. Et les jeunes s'informent beaucoup, beaucoup sur les plateformes, Instagram pour pas la nommer. Et on a affaire, les contenus qui sont traités sur ces plateformes-là, elles sont souvent monothématiques. Et elles sont très peu politisées. Et ces jeunes, ils passent un temps considérable sur ces réseaux sociaux. Et sur ces mêmes réseaux sociaux, il manque ce débat. Il manque la possibilité de la parole démocratique, le fait de ne pas pouvoir être d'accord, de pouvoir le dire avec des mots simples, que ça puisse être entendu. Et ça, ça n'aide pas à la politisation ou à la construction de la pensée politique chez nos jeunes.
Oleg Gafner, qu'on entendait tout à l'heure dans l'extrait, nous disait qu'il avait découvert sa vocation politique écolo lors d'un cours quand il avait 12-13 ans. C'est des choses auxquelles vous avez déjà pu assister, vous, dans des classes, des élèves qui ont une espèce d'illumination, qui disent « je ne peux pas ne pas m'investir ».
Oui, j'ai déjà assisté ça in vivo dans mes classes. J'ai eu l'occasion, l'année dernière ou il y a 2 ans, d'inviter SOS Méditerranée, qui est une organisation non gouvernementale qui s'inquiète des morts en Méditerranée. Et là, on a eu une journaliste d'ailleurs qui est venue témoigner. Elle a elle-même vécu un certain nombre de semaines sur ces bateaux de SOS Méditerranée. Et là, à la suite de cette intervention, de ces témoignages, il y a eu des élèves qui se sont investis et qui ont eux-mêmes, elles-mêmes, elles se sont investies dans la formation d'autres jeunes, dans l'information et la formation d'autres jeunes à ce propos-là.
On voit souvent, Roberto Di Capua, des gens dont la vocation politique est née à l'école.
Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Après, ce qu'il faut voir, c'est que, par exemple, dans le cas de Monsieur Gafner, donc à travers les yeux d'un sociologue, il dirait qu'il y a un peu quand même une sorte d'illusion biographique dans son cas. C'est-à-dire que, bien sûr, il peut y avoir des moments un petit peu clés où on prend conscience et dès qu'on réanalyse sa biographie, on cible un petit peu plus facilement ces moments. Mais après, il le dit également lui-même que quand même à la maison, ils avaient à table des discussions sur ce qui se passe dans la cité, sur quelle est la place de la culture au sein de la société, aller, etc. Donc ça, c'est tous des moments quand même qui permettent au niveau de l'adolescence ou de la préadolescence de commencer un cycle de politisation, de socialisation politique qui va ensuite, quand il y aura un petit peu ces moments un petit peu clés, de déclencher une envie de s'activer politiquement. Mais en réalité, il y a des prédispositions sociales qui ont été façonnées dès le plus jeune âge qu'on peut retrouver chez la plupart des personnes qui sont actives en politique aujourd'hui.
Il y avait un terreau fertile. Je vous propose qu'on rejoigne des élus qui sont sous la coupole à Berne, comme Samuel Bendaon.
Le premier souvenir, c'est quand même, il faut être honnête, d'être complètement impressionné. D'abord, vous rentrez dans ce palais fédéral, moi je ne connaissais pas l'endroit, donc c'était vraiment nouveau pour moi de voir tous les gens qu'on connaît à la télévision mais qu'on ne connaît pas en vrai. Ouais, ça nous met dans une situation aussi de peur de ne pas être capable. Et c'est ça le problème, c'est qu'on arrive, on se dit ça va être très dur de faire quelque chose de bien, j'ai déjà peur d'être incompétent, donc il y a déjà ça. Puis après, on entend tout le monde parler en allemand, puis on dit « Ah mais non, c'est sûr, il n'y a aucun doute, je serai incompétent. »
Les échos de vacances. Lieb vor singen, so wie ich jetzt hier. Ich singe und kein Preis, nicht Pütis, nee. Will sie hin, ja, ey. Sie werden vielleicht gern im Grund noch recht. Und denken, dass sie ihr das große Pech. Und es lastet auf ne wie ne schwere Stich. Dass sie hin. Verschlägt ihn die Stimme. Doch dünkt sie manchmal aus, sie nicht so schlimm. Es ist gleich das Glück, auch wenn es gar nicht will, dass wir Hemmiga haben. Was unterscheidet Menschen vom Schimpans? Es ist nicht die glatte Haut, der feine Schwanz. Nicht, dass noch schlechter Bäume aufkommen, ey. Dass wir Hemmiga.
Hübsches Mädel hier her. Jetzt schauen wir doch höchstens ein auf B, weil wir Hemmiga haben. Und wenn ihr seht, was heute der Mensch hat droht, so sehe ich wirklich schwarz, nicht nur rot. Und was man noch offen ist allein, dass sie Hemmiga.
Où est-ce que vous allez préparer cette intervention?
Je sais pas tellement où on va aller. Je crois qu'on va aller se poser quelque part dans la salle des pas perdus ou quelque part dans le palais fédéral. Puis je vais me poser avec mon ordi. En fait, comme tout le monde, même les traducteurs professionnels, maintenant, on utilise des outils automatisés, donc nous, DeepL. Et puis, on va utiliser cet outil pour aller beaucoup plus vite, en fait. Puis quand je serai content de mon texte, j'irai le montrer à une collègue alémanique qui montrera qu'il est pourri, puis je l'améliorerai. Voilà. Alors, on va voir si je peux trouver quelqu'un. Essayer de trouver quelqu'un qui parle bien. Bonjour Samira. Tu fais bien, hein. Et ça tombe bien que t'es là. Je voulais te demander, je suis désolé, j'espère que t'as une minute pour moi, Samira. Non, en fait, j'ai fait mon intervention pour tout à l'heure pour l'initiative des glaciers en allemand. Et je voulais te demander si tu pouvais juste jeter un œil au texte, me dire ce que tu penses. Je crois que je dois parler dans une heure, donc tranquille, si t'es d'accord.
Diese Initiative anzunehmen bedeutet doppelt zu gewinnen für uns und für alle. Là, tu veux dire que pour les Suisses, mais personnellement.
Voilà, c'est ça.
Pour
nous et pour tous, en français.
En allemand, on ne dit pas vraiment comme ça.
Okay.
On dit pour la Suisse
et pour tous.
Tout le globe.
Ouais,
die ganze, pour la Schweiz et pour la ganze Welt.
Ok, alors on peut le dire comme ça.
C'est un peu plus clair.
Ouais, bah parfait. Super, merci infiniment Samira. C'est trop sympa, ça me rassure.
Die ganze Welt, c'est très bien. Tu as quel numéro là?
49.
Et maintenant...
elle a maintenant, mais ça allait beaucoup plus vite que prévu. Donc Sidergraph c'est 39, j'ai encore 10 pour me préparer psychologiquement.
Vielen Dank, Herr Präsident. Was ist der Schlüssel zum Überleben und zum Erfolg der Menschheit? Die Antwort wird nicht immer dieselbe gewesen sein. Vor tausenden von Jahren konnte jeder sein Überleben
davon abhängig machen.
Wir werden nicht
nur
unserem Land und der ganzen Welt ein besseres Leben bescheren, sondern auch das Stärken und was wir können, für was wir wissen. Diese Initiative anzunehmen bedeutet doppelt zu gewinnen. Für die Schweiz und die ganze Welt.
C'est bon, c'est fini.
Sarah Wiss, conseillère nationale socialiste, canton Bâle-Ville. Je vous ai vu arriver vers Samuel Bendaon immédiatement après son intervention. Qu'est-ce que vous lui avez dit?
Si les gens ils parlent en allemand, les gens écoutent. Si les personnes communiquent en français ici, c'est quand même... Les gens ils l'écoutent pas trop parce qu'il y a la majorité qui ne comprennent pas très bien le français ici. Je suis désolée. Et puis, je pense qu'ils n'écoutent pas trop. Et puis, si c'est vraiment un sujet très important, moi, je remarque qu'il y a beaucoup de romans. En fait, peut-être, c'est pas juste, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de romans qui parlent en allemand, si c'est vraiment un sujet très important, quoi.
J'ai suivi Samuel Bendaon depuis hier soir, qui a préparé son intervention en français et en allemand. C'est un relativement gros effort. Ce que vous dites, c'est que son effort de parler allemand au Parlement aujourd'hui, c'était payant.
Oui, absolument. Je crois que ça vaut vraiment la peine parfois aussi de parler dans l'autre langue, parce que comme ça, les autres gens, ils voient que c'est vraiment c'est un sujet qu'on tient à cœur, si on se donne vraiment la peine pour l'autre langue. Donc c'est aussi un signe, moi je trouve, pour les parlementaires, oui.
Alors, vous-même, vous êtes baloise, vous parlez un français magnifique. Vous faites un effort pour parler français, parfois?
Oui, j'ai déjà... En fait, pour être honnête, j'essaye. Et puis, parfois, c'est quand même difficile parce que je suis quand même nerveuse quand je suis devant. Et puis, déjà en allemand. Et puis, si je parle en français, c'est encore plus. Donc, moi, je comprends absolument que c'est vraiment difficile de parler dans pas sa langue maternelle. Moi, j'ai habité au Jura, donc c'est pour ça que je parle. En fait, je comprends assez bien le français. Puis, je suis assez heureuse que je puisse quand même m'exprimer en français.
C'était Samuel Bendaon, conseiller national socialiste vaudois qu'on entendait tout à l'heure. C'était début mars, lors de sa première intervention en allemand devant le Parlement après bientôt 7 ans où il est là-bas. Roberto Di Capua, Berne, c'est un échelon qui demande tout d'un coup de nouvelles compétences à nos élus qui ont souvent grandi dans leur jus communal ou cantonal avant d'être propulsés au Parlement.
Alors oui, c'est sûr que malgré le fait qu'on puisse faire un peu ses armes au niveau communal ou au niveau cantonal, dès qu'on arrive à la Berne fédérale, là, ça va demander tout de suite un petit peu plus de compétences. Là, on l'a vu précisément des compétences linguistiques. Et on peut voir que même pour quelqu'un comme Samuel Bendaon, qui a l'habitude, dans son travail quotidien de professeur d'université, de s'exprimer devant des auditoires qui sont souvent plus grands que le Parlement fédéral, à quel point ça peut être difficile de s'exprimer dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle, et surtout de le faire de manière assez longue dans le temps, c'est-à-dire pour un discours qui dure en général 5-10 minutes en tout cas. Et ça, c'est un peu une obligation au niveau du Parlement fédéral pour pouvoir être un minimum écouté par les homologues alémaniques.
Vous nous disiez dans quel contexte on avait un peu construit ce mythe d'un parlement de milices. Dans la réalité, combien de temps les politiciens qui sont aux chambres fédérales consacrent à leur mandat politique ? Est-ce qu'ils ont encore tous un pied dans la société ou est-ce que c'est un vrai job à plein temps ?
Alors, c'est assez variable, c'est-à-dire qu'il y a des... on va dire que ça change en fonction des appartenances partisanes. Dans la plupart des partis du bloc bourgeois, on garde quand même une activité accessoire. Et dans les partis de centre-gauche, en général, on devient politicien professionnel.
Comment on explique cette différence ?
C'est-à-dire qu'à droite, on peut plus facilement obtenir, de par sa profession, le fait d'exercer une profession libérale, d'être avocat par exemple, on peut plus facilement maintenir son activité à côté d'une activité politique, alors que dans les partis de centre-gauche où certaines professions sont moins représentées, on est obligé en tout cas de réduire son taux d'activité. Ça met des fois des personnes en difficulté parce qu'il faut pouvoir accepter une baisse de revenus, il faut que son employeur soit aussi d'accord de nous libérer du temps pour qu'on puisse réaliser ce travail politique extra-professionnel. Donc, il y a aussi à ce niveau-là des inégalités dans la capacité, en fait, à tout simplement exercer la fonction de politicien au niveau fédéral.
Combien touchent les parlementaires à Berne ?
Alors, c'est une fourchette qui est, on va dire, assez large. Il y a une indemnité de base de 59 000 francs. Mais ensuite, dès que, si par exemple, on a des indemnités pour participer à des commissions, des indemnités de déplacement, de nuitée, si on est rapporteur de commission, on peut vite monter dans les 100 000 à 120 000 francs annuels.
Mais ce n'est pas des salaires complètement incroyables.
Ce n'est pas des salaires complètement incroyables. Après, ce qu'il faut également souligner, c'est que le fait de accéder à cette fonction de parlementaire fédéral, ça va vous ouvrir des portes à d'autres univers dans la sphère économique qui vont vous permettre, par exemple, d'exercer le rôle d'administrateur dans un conseil d'administration d'une grande entreprise. Toutes ces autres activités peuvent être lucratives, voire très lucratives. À titre d'exemple, depuis 2019, les parlementaires, maintenant, ils doivent non seulement indiquer s'ils ont des mandats dans des entreprises ou des associations ou des fondations, mais aussi préciser s'ils sont rémunérés. Et par exemple, si on prend par exemple le cas de Martin Schmitt, qui est un PLR des Grisons, il a 18 mandats et seulement 3 de ces mandats lui rapportent 400 000 francs par année.
D'accord. Donc, une fois qu'on est au Parlement, on augmente nos chances, par ailleurs, d'avoir des revenus périphériques. On n'a pas d'ENA en Suisse. On n'a pas d'école nationale d'administration comme en France, où la classe politique est issue de ces écoles parisiennes. Est-ce que les politiciens et les politiciennes qui siègent au Parlement sont armés pour comprendre les débats au niveau scientifique, au niveau juridique, au niveau linguistique ?
Alors, ils ont sans doute des compétences que souvent ils arrivent à transposer, par exemple, de leur profession d'origine, dès qu'on est avocat ou juriste, ou bien dès qu'on est ingénieur dans un domaine qui est, souvent discuté dans les chambres fédérales, en télécommunications, en environnement, ou bien sûr qu'on peut transposer des connaissances, mais c'est vrai que contrairement au cas français, où il y a vraiment cette école d'administration publique qui est relativement puissante. En Suisse, on n'a pas cette situation, mais aussi parce qu'on a un État central qui est plus faible qu'en France. Et donc, il y a moins de positions stratégiques, administratives, qui sont rémunérées.
Mais alors, comment font les politiciennes, les politiciens pour se former ? Quand tout d'un coup, on voit qu'il y a des enjeux, par exemple, scientifiques, on a parlé du Covid, comment est-ce qu'ils étaient capables d'appréhender ces enjeux ?
Alors souvent, en fait, ce qui se fait en Suisse, c'est qu'il y a par exemple des commissions extra-parlementaires. Ces commissions sont instituées par la Confédération pour aider le gouvernement et le Parlement à mettre en place des lois d'application, par exemple. Et ces commissions-là, elles ont été développées pour pouvoir permettre à des groupes d'intérêt, à des lobbyistes, à des représentants de la société civile de venir quelque part offrir une expertise au sein du Parlement fédéral.
Mais ça veut dire que le manque, avec tous les guillemets possibles, de formation de nos élus amène une certaine fragilité, on pourrait dire, par rapport à des groupements d'intérêts qui les entourent et qui pourraient vouloir les orienter.
Elle a été en tout cas institutionnellement organisée de la sorte. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut avoir l'impression qu'il y a un petit peu un self-government, c'est-à-dire que c'est la société civile qui participe à ces commissions extra-parlementaires pour pouvoir mieux informer les parlementaires. Mais en réalité, c'est un moyen moyens qui est à disposition de différentes sphères d'intérêt, comme par exemple les milieux patronaux, d'influencer directement les politiques qui sont menées au niveau fédéral.
On évoquait cette question des compétences des élus. Parmi ces compétences, il y en a une dans laquelle les Suisses ne sont pas considérés comme les plus forts au monde, c'est celle de l'éloquence, de la prise de parole, qui est nécessaire quand même quand on a un mandat politique. On entendait Samuel Bendaan qui prenait la parole devant le Conseil national. On se rendait bien compte, en l'écoutant, ça demande un sacré aplomb, un sens de la formule. Yad Janzi, est-ce que les élèves sont bien formés à cette chose-là, la prise de parole ?
Alors, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'à l'école, il y a encore une prédominance de l'écrit dans tous nos systèmes scolaires. Donc, la question à se poser, c'est comment faire pour redonner de la valeur à l'oral. Introduire le débat, c'est un des moyens d'y parvenir.
Ça veut dire faire débattre les élèves dans les classes ?
Tout à fait. Et puis, pour réussir à faire cela, ce qui est vraiment très important, c'est d'offrir des espaces de dialogue dans un cadre géré et dans un cadre sécurisé. Mm-hmm. C'est avec ce cadre-là qu'il est possible de porter sa voix en tant qu'élève, d'apprendre à s'affirmer, à s'opposer par des mots et par des idées. Parce que la parole, c'est vraiment le socle de nos échanges et c'est le socle aussi de nos sociétés. Apprendre à débattre à l'école, c'est un enjeu politique, mais c'est aussi un enjeu démocratique.
On va se rendre dans une classe genevoise qui participe au programme Genève Débat. C'est un programme que vous connaissez bien. Vous nous en dites deux mots.
Alors Genève Débat, il s'agit de débats contradictoires. Donc c'est deux élèves contre deux élèves, deux pour, deux contre sur une question de société. Ça peut être, par exemple, est-ce qu'on doit introduire des repas végétariens à la cantine ? Donc, les élèves doivent trouver des arguments. Parfois, ils sont aidés aussi pour trouver des arguments pour et contre une question fermée.
C'est pas les profs hein, qui animent, ce sont des modules qui sont proposés par Genève Débat.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment la spécificité de ce projet. Il y a des ambassadrices et des ambassadeurs. Donc c'est un apprentissage entre pairs. Ce sont des jeunes entre 20 et 25 ans qui sont passés très souvent par le collège, qui sont à l'université et qui viennent dans les classes deux fois 90 minutes pour apprendre trucs et astuces pour le débat.
Alors c'est une classe du collège de Saussure qui a accueilli notre reporter Mathieu Truffert. On écoute.
Bonjour. Je m'appelle Laura. Je pense que vous savez ce que je viens faire cet après-midi avec vous. Je crois que votre enseignante vous en a parlé un petit peu. On va débattre. Où est-ce qu'on peut voir du débat ? Oui ?
Bah dans la politique.
Ouais, en politique. Ils débattent bien, les politiciens, à ton avis ?
Je regarde pas trop, mais j'imagine.
Ouais.
C'est leur métier.
Ok, c'est leur métier. C'est leur métier de bien débattre. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de travailler aujourd'hui pour s'entraîner un petit peu au débat, à la prise de parole en public, pour comprendre à quel point ce sera important pour la citoyenneté, pour les débats politiques, pour l'échange des idées, la construction de votre pensée. Donc, on va tout pousser pour faire un grand cercle au centre.
C'est quoi le sujet du débat, alors ?
Alors, on va débattre sur le droit de vote à partir de 16 ans en Suisse. C'est un sujet qui est excellent parce que ça les concerne directement et donc ça va être beaucoup plus facile pour eux de trouver des arguments pour et contre alors même qu'ils sont concernés par cette problématique-là.
Maintenant qu'on a le sujet, on va passer à la recherche d'arguments. Laura va vous distribuer une feuille sur laquelle vous avez deux colonnes, la colonne pour et la colonne contre. À Genève Débat, on accorde beaucoup d'importance au fait de se mettre dans la peau des autres. Donc on va vous demander de chercher des arguments pour et des arguments contre, indépendamment de votre sensibilité personnelle, d'accord ? Ce qui est intéressant, ce n'est pas ce que vous pensez vous, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce que vous arrivez à vous mettre à la place des autres et est-ce que vous avez de la répartie pour pouvoir répondre. Vous avez aussi des flèches. Ça, c'est important parce qu'on vous encourage à noter vos arguments, du plus fort au plus faible, parce qu'on a un temps limité. Et vous n'allez pas pouvoir aller en profondeur dans tous les arguments. Donc, il faut bien les choisir. Un bon débat, parfois, c'est que trois arguments, mais trois arguments en profondeur avec des explications, des exemples.
S'il vous plaît. Bon. Raquel va vous donner des petits conseils pour trouver vos arguments et pour être le plus complet possible, surtout.
Elle a une petite astuce.
Alors, social, politique, économique, religieux, moral, sanitaire.
Ok, alors là, au tableau, vous avez une technique mémotechnique, vous allez vous en souvenir. C'est écrit SPERM, ok? Et c'est comme un acronyme, donc en fait, chaque lettre fait référence à un aspect de la société. Donc quand on cherche des arguments pour un sujet, au lieu de tourner en rond sur la sphère économique ou sur la sphère religieuse, dépendant des sujets, eh ben, vous allez pouvoir regarder tous les aspects. Typiquement, là, j'ai vu beaucoup d'arguments dans la sphère sociale. J'en ai vu beaucoup moins dans la sphère religieuse ou morale, alors que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup dans nos imaginaires, même si on est athée. Vous savez que la société, notre calendrier, tout a une base religieuse. Et la morale aussi, c'est quelque chose qui guide nos actions au quotidien. Donc ça a vraiment beaucoup d'importance.
Raquel,
oui.
Vous venez de donner quelques trucs aux élèves pour trouver des arguments. Ils viennent d'où ces trucs? Qui c'est qui les invente?
C'est nous. On invente et puis on regarde comment c'est reçu et on s'adapte. Typiquement, il y a certaines classes où je ne peux pas parler de ça, parce que ça veut juste être un fou rire pendant 45 minutes. Mais au collège, ça marche assez bien parce que c'est des élèves assez studieux, carrés. Même s'ils sont motivés, parfois, il faut un peu tirer pour avoir de la spontanéité et de l'humour. Et du coup, je me dis, ben, typiquement, pour ce genre de profil, c'est assez bien de rappeler que voilà, la mémoire est la mémoire. Et un mot comme ça, on va s'en souvenir, même si on parle de choses sérieuses, finalement.
Raquel, Vidal, Rémi et Laura, qui rallient animer cet atelier de Genève Débat dans une classe du collège de Saussure. Yad Janzi, concrètement, ça se passe toujours comme ça. On apprend d'abord des conseils d'argumentation et puis il y a un débat. Deux personnes contre deux personnes, puis à la fin, ça se finit comment? Il y a un vote en classe?
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement quatre débatteurs, débatteuses, mais il y a aussi un élève qui est responsable du temps, du chronomètre. Mmh. Et puis les autres élèves, ils sont répartis par groupe et ils doivent faire un retour sur le débat. Ils doivent évaluer, par exemple, les connaissances de la matière, l'expression, le dialogue, le pouvoir de persuasion. Donc ça veut dire que toute la classe est proactive, mais avec des rôles différents. Et souvent, on fait plusieurs débats et ça permet de tourner et que plusieurs élèves puissent prendre la parole. Donc c'est vraiment un projet qui fonctionne extrêmement bien à Genève. Mmh. Il y a 150 professeurs qui s'inscrivent et qui sont fidélisés à ces débats. Et puis ça touche plus de 10 000 élèves à ce jour à Genève.
Qui ont
et
déjà
c'est...
pu accueillir des...
Tout à fait, des ambassadeurs et des ambassadrices, donc deux fois 90 minutes en classe. Et c'est vraiment un projet qui fait mouche.
Dans les autres cantons, il y a des choses un peu de ce style qui existent aussi?
Alors oui, alors la Genève débat, le concept, il nous vient d'Allemagne. Et c'est une manière de débattre qu'on retrouve ailleurs et ailleurs en Suisse, ailleurs en Europe. Et d'ailleurs, le Genève débat propose des rencontres à Genève, intercollèges, mais aussi des rencontres à l'échelle romande. Alors à l'échelle suisse, là, il y a de nouveau la question de la langue. Il faudrait pouvoir proposer des débats en trois langues différentes.
Tout à l'heure, vous nous avez présenté dans les grandes lignes le travail du polyscope. Il y a aussi des tables rondes dans ce cadre-là. Il y a aussi des discussions en classe.
Oui, tout à fait. Donc le polyscope propose aussi des tables rondes. Les élèves vont être invités à une table ronde sur une question de société, par exemple l'immigration. Comment appliquer une politique migratoire, ouverture, fermeture des frontières. Et les élèves vont devoir se mettre dans la peau d'un des acteurs, que ça soit des partis politiques suisses, de gauche comme de droite, le gouvernement suisse, l'Union européenne, la société civile aussi, mais aussi le Haut Commissariat aux réfugiés. Donc on a sept acteurs distincts avec des points de vue différents sur la politique à mener. Donc là, l'enjeu, c'est... Il y a un double enjeu. Il y a un enjeu en lien avec la branche, avec l'enseignement, par exemple, de la géographie disciplinaire, mais aussi un enjeu d'apprentissage, de prise de parole et d'apprentissage de pouvoir contrer des arguments et aussi écouter des arguments et de pouvoir intégrer dans son propre récit, dans son propre discours. Et on insiste beaucoup là-dessus, la parole d'autrui.
Oui, on l'entendait dans l'extrait qu'on vient d'écouter. Les élèves sont censés se détacher de leur propre positionnement idéologique pour interpréter les arguments pour, les arguments contre. Ça ouvre cette question de la construction du positionnement idéologique. Roberto Di Capua, est-ce qu'on sait d'où vient l'affiliation de nos politiciens, de nos politiciennes? Tout à l'heure, dans le premier extrait qu'on a entendu, on entendait Tatiana Rezzo nous dire qu'elle était PLR presque dans le sang. C'est quelque chose de très courant.
Oui, c'est relativement courant. On va dire que on analyse même en Suisse souvent des dynasties de politiciens hein, où on peut retrouver des grands-pères, voire des arrière-grands-pères qui occupaient des fonctions politiques et souvent même dans le même parti. Donc, c'est sûr que la famille, elle a quand même un rôle central au moment de la socialisation primaire et secondaire pour transmettre certains idéaux politiques en fonction de notre classe sociale d'appartenance.
Yadjanzi, ils aiment jouer ce jeu d'incarner la parole, par exemple, de partis pour lesquels ils ne voteraient pas, les élèves qui participent à ces tables rondes ou à Genève Débat.
Oui, ils le font très volontiers. Au début, il est possible que certains élèves ou certaines élèves soient réticents ou réticentes, mais très très vite, ils se prennent au jeu et ils disent même ce que ça amène en termes de compréhension. Parce que autour de la table, les partis politiques qu'on a choisis, c'est le Parti socialiste et l'UDC. Donc évidemment, ils n'ont pas les mêmes points de vue. Et puis parfois, les élèves ont davantage envie de jouer l'un ou l'autre des partis. Mais une fois qu'ils l'ont fait, ils se disent c'est vraiment intéressant parce qu'on comprend mieux pourquoi ils tiennent ce discours-là et ces paroles-là. Donc cette capacité de se décentrer et de comprendre la parole de l'autre, elle est essentielle et les élèves adhèrent pleinement. Et très très souvent, j'ai eu des témoignages d'enseignants qui disaient « Mais quand est-ce que les experts reviennent en classe ?» Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le contexte du Polyscope, du projet du Polyscope, là aussi, on n'a pas d'ambassadeur ou d'ambassadrice, mais on a des expertes et des experts de l'université qui viennent deux fois aussi dans les classes, une fois pour accompagner la construction des arguments. Et ils peuvent amener un regard extérieur, autant sur le fond que sur la forme du débat.
Bon, on va se quitter en retenant l'enthousiasme des classes que vous accompagnez pour le fait politique, pour la prise de parole, pour l'argumentation. Merci beaucoup Roberto Di Capua, merci beaucoup Yadjanzi d'avoir été avec nous ce matin. On se quitte en musique avec Tracy Chapman qui nous parle de révolution. Don't you know, talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds. People gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Ooh. On se quittait avec Tracy Chapman. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Tous les reportages de Mathieu Truffert sont disponibles en réécoute sur rts.ch ou sur notre application Play RTS. Merci à vous deux d'être venus. Roberto Di Capua, je rappelle que vous êtes politologue à l'Institut d'études politiques de l'Université de Lausanne. Yad Janzi, vous êtes enseignante d'histoire et de géographie au Collège de Genève et collaboratrice du Poliscope. Très bon dimanche à tous les deux.
Merci.
Merci.
Pour préparer l'émission de ce matin, il y avait Mathieu Truffert, Jean-Daniel Mottet, Frédéric Kohler, Samuel Morier-Genoux, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux et Stéphanie Jovanovic. Merci à tout ce monde. La semaine prochaine, nous allons parler d'écriture. Avec le Covid, les maisons d'édition ont été noyées sous les manuscrits. Alors, sommes-nous tous et toutes capables d'écrire des romans? Comment les maisons d'édition choisissent-elles leurs textes? Comment accompagnent-elles le processus d'écriture? L'auto-édition est-elle une bonne formule lorsque l'on ne trouve personne qui veut nous publier? Réponse dans les 5 reportages de Quentin Bollone à découvrir tous les jours de la semaine prochaine à 13h sur la première. Les échos de Volcan.